Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Votre armure est-elle complète? C'est la question que vous devez vous poser, que nous devons nous poser aujourd'hui, parce que Saint Paul nous demande de vérifier justement cette armure, de vérifier toutes nos âmes spirituelles pour savoir si nous sommes aptes, pour savoir si nous sommes prêts à combattre. Et cela est très important. Saint Paul nous en avertit. Cela est important parce que nous ne luttons pas seulement contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des ennemis qui seraient seulement et purement humains. Et afin de nous motiver toujours plus dans le combat spirituel, Saint Paul replace celui-ci dans l'ensemble de ce qu'il en est véritablement de ce combat, c'est-à-dire un combat qui fait appel aux puissances des ténèbres, qui fait appel aux démons, qui fait appel à tous les anges déchus. Parce qu'en fait, il n'y a finalement qu'un seul grand combat. C'est le combat entre Dieu et le diable. Nous sommes certes partie prenante dans ce combat, mais le grand combat, c'est entre Dieu, qui est le Créateur, souverain maître de toutes choses, et puis le diable, qui s'est révolté contre lui, et qui veut, par conséquent, entraîner à sa suite le plus de personnes possible. Ce seront les anges, dans un premier temps, qu'il va prendre avec lui. Satan va dévoyer tout un tas d'anges, et puis également les hommes, comme dans un second temps. Donc nous faisons bien partie de l'ensemble du combat, mais j'allais dire, ne nous trompons pas d'ennemis. Ou plutôt, les ennemis sont nombreux, mais sachons que ce n'est pas seulement une sorte de petit perfectionnement où il faudrait juste lutter contre des tendances qui en nous ne seraient pas tout à fait bonnes, histoire juste de rectifier le tir. Dans cela dépasse complètement l'horizon de notre seule personne. C'est entre Dieu créateur et sa créature. Qu'en est-il vraiment de nous? Et donc depuis la Genèse, le diable veut perdre les hommes. Et nous devons en avoir bien conscience. À tel point que Saint Paul nous demande de vérifier les armes spirituelles qui doivent être les nôtres. Une fermeté, nous dit-il. Effectivement, il ne faut pas seulement faire le bien de temps en temps. Il faut se tenir droit, comme il dit, se tenir ferme. C'est-à-dire avoir cet enracinement dans le bien qui fait qu'il y a une véritable maîtrise, qu'il y a une véritable assise de notre personne dans le bien. On n'est pas facilement ébranlé par le mal qui est autour de nous ou qui nous est soufflé par le diable, parce que nous avons cette fermeté. Et ensuite, c'est finalement notre propre personne. Et ensuite, il y a, comme par rapport à cette fermeté, à ce corps qui doit être ferme et se tenir droit, il y a tout ce qui va protéger cette fermeté, à savoir la ceinture de la vérité. Aimons-nous la vérité? Sommes-nous nous-mêmes dans la vérité? Parce que c'est cette vérité qui va permettre de continuer de nous tenir droit. Si nous sommes véritablement dans la vérité, nous saurons quelles sont nos faiblesses, nous saurons comment nous maintenir droit. Également la cuirasse de la justice. La justice va nous protéger. On sait bien que justice et sainteté dans le langage biblique se recoupent quasiment. Mais la justice rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est-à-dire, d'abord, rendre à Dieu ce qui lui est dû. Est-ce que nous avons à cœur de rendre tous les honneurs, tous les hommages qui sont dus à notre souverain maître, comme nous le disons régulièrement dans notre prière du matin? Est-ce que vraiment c'est un objectif de notre vie que de rendre à Dieu ce qui lui est dû? Et cela, nous protège de beaucoup, de traits enflammés du malin, comme dit saint Paul dans l'Épître, parce que, nous sommes avec cette armure qui doit nous protéger. Également, les chaussures. Saint Paul va vraiment dans le détail. Les chaussures, c'est le symbole du zèle apostolique. Est-ce que, au lieu d'être en position de défense, j'allais dire, et pour ceux qui ont fait de l'escrime, ils le savent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc est-ce que nous savons porter aux autres la parole de Dieu? Est-ce que nous savons non pas attendre d'être agressé par le monde, attendre d'être en position de faiblesse et de défense? Non. Il ne faut pas rester dans cette position-là, il faut passer à l'attaque. L'attaque chrétienne étant justement le zèle apostolique à transmettre la bonne parole. Et surtout, nous dit saint Paul, le bouclier de la foi. Celui qui voit les choses comme Dieu les voit, n'est pas susceptible d'être touché par, encore une fois, c'est très enflammé, c'est-à-dire ces javelots du diable, parce qu'il voit les choses telles qu'elles sont en vérité. Et donc il n'est pas dans l'illusion, il n'est pas dans le fait de prendre toutes les tentations. Finalement, toutes les tentations sont des mirages, et donc on les voit véritablement comme des mirages. Et un mirage, on sait bien qu'il ne faut pas aller vers un mirage, il faut suivre la raison, il faut suivre sa boussole, et non pas essayer d'atteindre une pseudo-oasis. Et bien pour nous, c'est pareil. Il faut avoir cette foi qui nous fait voir les choses telles qu'elles sont. En vérité, une faute, c'est une faute. Un péché, c'est un péché. Une illusion, c'est une illusion. Et alors, on peut repousser avec efficacité les tentations du démon. Et enfin, le casque du salut, puisqu'il faut être habillé de pied en cap, il faut aussi ce casque qui va protéger notre tête. Parce qu'il faut que notre intelligence, il faut que tout notre raisonnement soit protégé, encore une fois, contre la perversité du diable, qui a toujours mille et une manières pour nous convaincre. Parce que nous ne pouvons pas pécher tant que nous voyons que les choses sont absolument mal. Alors, évidemment, il va juste nous montrer comment une certaine chose peut, sous un certain rapport, être un bien pour nous. Et alors, l'intelligence se laisse focaliser par ce raisonnement qui nous montre juste un tout petit bien et nous oublions le reste, c'est-à-dire de remettre tout en perspective afin de considérer cela comme un mal objectif. Et enfin, dernière arme par excellence, le glaive de l'Esprit-Saint qui est la parole de Dieu. Il faut donc non pas seulement se protéger, mais aussi passer à l'attaque, pas seulement par le zèle apostolique, mais aussi avec la parole de Dieu. De même que notre Seigneur, au moment de sa tentation au désert, va répondre à Satan avec la parole de Dieu, correctement utilisée, correctement interprétée. Il faut avoir ce contact familier avec la parole de Dieu pour pouvoir résister aux tentations, renvoyer le démon systématiquement en enfer et le chasser loin de nous, loin de toutes ces propositions pour répondre de manière juste avec la Sainte Écriture. Et si nous méditons la vie de Jésus, si nous méditons ses paroles, alors nous pourrons trancher, nous pourrons repousser Satan. Un point particulier, justement, où il faut être profondément chrétien, et où il faut avoir justement cette solidité, cette fermeté, se tenir debout, et tout ce qui entoure cette solidité, comme on vient de voir, c'est par rapport à la miséricorde. Il est difficile de faire miséricorde. Certains y arrivent plus que d'autres. Mais il n'en reste pas moins vrai que quand il y a des affrontements violents, il est difficile de pardonner. Chacun en a fait, à mon sens, l'expérience. Mais ici, notre Seigneur est très clair. Celui qui ne fait pas miséricorde, mon Père des cieux le traitera comme le roi a traité son serviteur qui n'a pas voulu faire miséricorde. Donc il y a une obligation absolue, une obligation chrétienne absolue de faire miséricorde, c'est-à-dire de pardonner, et pas pardonner un peu. Notre Seigneur nous dit pardonner du fond du cœur, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher en nous toute la grâce possible qui nous est donnée par le bon Dieu pour pouvoir pardonner du fond du cœur, pas seulement de bouche, pas seulement, encore une fois, un petit peu, mais vraiment c'est tout notre être qui pardonne. Et le pardon fait grandir. Le roi n'est jamais aussi grand dans la parabole, que lorsqu'il pardonne, exercer la stricte justice, rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est bien. C'est quelque chose de très beau. Et d'ailleurs, le monde irait bien mieux si nos politiques rendaient véritablement justice à chacun. Et non pas systématiquement s'embuer dans toute une sorte d'affaire. Mais nous aussi, nous avons à examiner notre conscience. Est-ce que nous rendons justice vraiment à tout le monde? Est-ce que nous sommes justes avec tout le monde? C'est une bonne chose. Mais après, est-ce que, même quand la justice est lésée, nous savons aller encore au-delà? Non pas en deçà, où on serait alors lâche et pusillanime, mais au-delà de la justice. La miséricorde n'est pas l'application de la justice. Elle est comme l'accomplissement ultime de la justice, c'est-à-dire qu'elle est dépassée par un acte de charité. L'autre, ne pouvant pas rendre ce qui nous est dû, eh bien, nous allons effacer la dette. Et c'est ça la miséricorde. L'autre a fauté, eh bien, il ne peut plus, j'allais dire, trop se reprendre. Il peut demander pardon, mais il ne peut pas effacer sa faute. Il l'a commise. Qui a le pouvoir d'effacer? C'est l'autre, en pardonnant. Et donc, nous devons apprendre à pardonner. Comment? Eh bien, je crois en faisant nous-mêmes l'expérience du pardon de Dieu. Si nous savons, eh bien, humblement nous mettre à genoux et nous confesser, eh bien, nous expérimentons le pardon de Dieu. Et je crois qu'il est très important de faire cette expérience-là dans la confession. Parce que si on fait l'expérience, la confession est vécue comme l'expérience de la miséricorde de Dieu, alors nous sommes dans la joie. Et se confesser n'est pas une chose terrible, parce que c'est le lieu même de la miséricorde. Au lieu de se regarder soi-même avec sa propre misère, on regarde le fait que c'est l'occasion pour Dieu de nous faire miséricorde. Et Dieu, j'allais dire, si cette parole a un sens, Dieu n'a jamais autant Dieu que lorsqu'il fait miséricorde. Alors que si on se regarde soi-même, on va plutôt regarder ses fautes et on va se considérer comme misérable. Nous le sommes, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est toujours Dieu et la joie, quand on voit Dieu qui fait miséricorde. Alors, sachons recevoir le pardon de Dieu et rentrons dans cette logique divine enseignée par notre Seigneur. Si je reçois le pardon de Dieu, je suis tenu, obligation morale, de faire miséricorde aux autres. Et vous verrez, pour en faire l'expérience, vous verrez que cela vous dilatera littéralement le cœur. Celui qui est strict sur la justice et uniquement la justice, a un cœur et un esprit étroit. Celui qui sait pardonner, celui qui sait faire miséricorde, alors a le cœur généreux. Alors demandons à Notre-Dame, qui était on ne peut plus parfaite dans toutes les armes spirituelles, de nous donner cette arme par excellence, typiquement chrétienne, de la miséricorde, elle qui a été en union toute sa vie avec Dieu miséricordieux, spécialement au moment de la croix, où elle adhérait totalement à la miséricorde divine, elle qui est corédemptrice, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.